L'enfant qui pleurait. Pourquoi tu étais en retard? Pourquoi tu n'étais pas là? La chambre d'hôpital est plongée dans l'obscurité. La lueur des lampadaires n'est pas suffisante et un seul néon est allumé, au-dessus du premier lit, vide. C'est du second lit que la plainte s'est élevée. Un rideau tiré coupe cependant la vue à la visiteuse. Trois personnes sont là. Debout et silencieuse, au fond de la pièce. Une infirmière et deux policiers. Ils lui jettent tous un regard. Ils l'attendent. Elle remet ses cheveux en place et tire nerveusement sur son chemisier froissé. Ce n'est pas dans son habitude de se présenter en public si négligé. Mais, à une heure pareille, dans cette précipitation, que pouvait-elle faire ? Madame, l'interpelle doucement un des agents de police en lui faisant signe d'avancer. Le ton sonne plus comme une prière que comme un ordre. Ses talons plats ne font pas de bruit sur le linoléum quand elle fait quelques pas et apparaît dans la lumière. Le néon ne l'arrange pas. Elle a l'air d'une morte qu'on aurait trop maquillée. Les couleurs criardes de son blush et de son fard à paupières accentuent sa pâleur, sa fatigue, sa peur. Elle empoigne d'une main le bout du premier lit médicalisé. L'effort fait ressortir ses veines, ses taches brunes, sa vieillesse. Elle s'approche encore, doucement, du rideau. Mais elle se ravise au dernier moment. Elle ne veut pas découvrir ce qui se cache derrière. Elle cherche un appui et s'assoit sur la chaise roulante, juste de l'autre côté du tissu. L'infirmière s'approche d'elle, mais elle lève la main et fait non, de la tête. Elle n'est pas prête. À quelques dizaines de centimètres, elle entend la respiration de l'homme dans le lit. Elle est saccadée, difficile, comme s'il se retenait de pleurer. Elle passe sa main gauche, tremblante, sur son front et jette un œil sur son annulaire auquel aurait dû se trouver un anneau. Si seulement. Elle a l'impression d'être dans un mauvais rêve. Mais aussi ardemment qu'elle souhaite son réveil, rien ne vient. Elle est coincée dans cette chambre sordide. Maman. Le mot est à peine reconnaissable. Jeté. Craché. Mélange de peur, d'envie et de haine. Le rideau n'est pas une protection suffisante pour Chantal qui encaisse en silence. Combien d'années cette voix avait été absente de sa vie ? Combien d'années avait-elle de retard ? Elle ne souhaite plus faire le compte. Son fils est de retour, ce soir, dans cette chambre, derrière ce rideau. Il est là. Et il se met à pleurer. Martin a toujours pleuré, se remémore Chantal. C'était un enfant agité mais douillé. Il hurlait au moindre bobo. Difficile pour sa mère, seul pour l'élever. D'être constamment aux aguets, de se mettre entre son fils et le monde. En grandissant, il s'est attiré les moqueries de beaucoup de ses camarades de classe. Les moqueries, et très vite les insultes et les coups. Martin pleurait tous les matins avant d'aller à l'école, tous les soirs quand il en revenait. Chantal imposait un cadre strict à la vie de son fils. Obéissance, sérieux et sévérité en étaient les murs porteurs. Pour faire un homme fort, il faut des fondations solides. Et elles se bâtissent grâce à la discipline. Si elle ne pouvait pas être très présente à cause de son travail, elle demandait donc à des professionnels de veiller sur lui le soir en semaine, de l'aider aux devoirs mais aussi de l'encadrer d'une manière générale. Mais rien n'y a fait. Quand il la voyait, Martin regardait sa mère, l'air de dire « Pourquoi tu n'es pas là ?» Mais que pouvait-elle faire ? Ils ont continué ainsi jusqu'à ce qu'ils partent. Après sa première année de lycée, une fugue, sans un mot. Chantal avait croisé une ancienne voisine peu après qui lui avait demandé « Et que devient votre fils, l'enfant qui pleurait ?» Il est parti. Et elle n'avait rien pu lui dire d'autre. « Madame. Madame. » Le ton est plus pressant, plus sec. Le policier est face à elle, les pouces dans sa ceinture, en position d'intimidation. Mais le néon ne le flatte pas non plus. Il projette une ombre sur sa bouche qui grossit encore l'énorme moustache qu'il porte. Chantal l'aurait trouvé pathétique dans une autre situation, avec son air de cow-boy bas de gamme. Mais elle se lève. Lentement, elle fait le tour du rideau et se retrouve face à lui. Il faut quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la pénombre qui règne de ce côté-ci. Puis elle le voit. Il est allongé sur le côté, replié sur lui-même. Il tremble et il sanglote. Encore. Le peu qu'elle voit de son visage est marqué par les années d'excès et de souffrance qu'il a passées. Au téléphone, la police avait été assez vague. Ils avaient juste dit qu'ils l'avaient peut-être retrouvée, qu'il fallait qu'elle le reconnaisse. Mais elle avait quand même compris qu'il l'avait sorti d'un squad de SDF et de drogués. Elle l'aurait compris en le voyant, sinon. Sur son visage, elle contemple tout à la fois sa maigreur, sa pâleur et sa peau affaissée. Il fait deux fois l'âge qu'il a. Il se tourne vers elle. Ses yeux sont rouges. De pleurs ou du manque. Il l'accuse. Encore. Pourquoi tu étais en retard? Pourquoi tu n'étais pas là? Parce que je te déteste, aurait aimé crier Chantal. Mais elle l'observe calmement, avec la froideur qui a toujours été la sienne. Elle observe cet être que la faiblesse caractérisait, qui le caractérise encore. Un être pitoyable, misérable. Toute sa vie à devoir s'occuper de cet ersatz d'homme, un pleurnicheur, un boulet. À devoir lui donner de l'attention, tous les jours. Si elle ne rentrait pas le soir, si elle travaillait autant, ce n'était pas tant par nécessité que pour ne pas le voir. Pas qu'il lui rappelle son père, non. Il était parti et c'était tant mieux. Parce qu'il lui rappelait toutes les opportunités qui lui avaient été refusées avec ce bébé dans les pattes. Professionnel, personnel, chaque jour, elle le détestait un peu plus. Un horrible fardeau, vagissant du matin au soir. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'il est encore. Il n'a rien appris. La haine la submerge presque, mais Chantal avait appris à la dissimuler. Elle essaie d'ouvrir la fenêtre, mais le système de sécurité la bloque, ne laissant passer qu'un petit filet d'air. Elle y colle sa bouche pour respirer. Elle n'avait pas cherché à l'aider. Elle n'avait pas voulu lui donner ce qu'il voulait. De l'amour. Elle n'avait pas pu. Elle connaissait ses mauvaises fréquentations au lycée, mais elle avait laissé faire. Exprès. Elle avait relâché la tension. Lui avait laissé un peu d'espace, pour qu'il s'engouffre dans la brèche, pour qu'il parte. Et c'était arrivé. Et quand on l'a questionné sur son fils, le plus dur était de cacher son soulagement. Le soulagement de ne plus le voir, de ne plus le détester, de ne plus avoir honte. Honte de ne pas être une mère. Mais la honte lui revient soudain. La honte d'être son bourreau, de l'avoir précipité dans cet abîme. Honte et culpabilité de son crime maternel jamais dévoilé. Mais que pouvait-elle faire? Le reconnaître? Tout avouer? Une image se forme dans son esprit. Lui, à nouveau chez elle. Un frisson s'empare alors d'elle et elle referme la fenêtre. Ce n'est pas mon fils, déclare-t-elle doucement. Et elle quitte la pièce.